Merci d'écouter RFI. Il est 13h en temps universel, 15h ici à Paris. Le journal, bonjour Diane Berger.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
À la une, le résultat des élections municipales en Turquie.
L'AKP de Recep Tayyip Erdogan se fait balayer sur fond de lourdes crises économiques dans le pays. Au sommaire également, la présidente du Pérou, soupçonnée de s'être enrichie de manière illicite après la diffusion de photographies montrant Dina Boluarte avec différentes montres de luxe. Et puis au Canada, la taxe carbone sur la sellette, le camp conservateur rêve de l'abolir. On reviendra sur les enjeux autour de cette mesure avec Pascal Guéricola.
RFI Midi.
Et juste après ce journal, l'actualité du continent américain. La mise en place très laborieuse du Conseil présidentiel de transition en Haïti. Elle devrait enfin intervenir aujourd'hui alors que la dégradation de la situation inquiète beaucoup la diaspora. On le verra dans quelques minutes. Notre dossier du jour, reportage de notre correspondant au Texas, aux États-Unis, où les fausses cliniques d'avortement pullulent sous la pression des conservateurs et grâce aussi à leur financement. Et puis comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer. Benoît Ferrand, vous nous parlerez tout à l'heure d'un magistrat exfiltré de Guyane après avoir été menacé par des criminels.
Oui, des criminels brésiliens. Information révélée le 23 mars dernier et confirmée depuis, nous dira tout à l'heure notre confrère Laurent Marot.
A tout à l'heure, Benoît Ferrand. On vous retrouve dans 25 minutes et tout de suite le journal. C'est un triomphe en Turquie. Le CHP, le principal parti d'opposition, a remporté une série de victoires historiques aux dernières élections municipales.
Ankara, Istanbul, Izmir, Antalya, Bursa, le président turc Recep Tayyip Erdogan a lui-même reconnu un tournant. Son parti, l'AKP, a même perdu des villes dans des fiefs conservateurs d'Anatolie. Une débâcle électorale aux explications diverses, une certaine lassitude de la population notamment, mais aussi, Nathanaël Vitran, le poids de la crise économique dans laquelle s'enfonce la Turquie.
En un an, les prix ont augmenté de 67%. La livre turque, elle, a perdu 80% de sa valeur depuis 2019. Résultat, le coût de la vie a explosé et la classe moyenne en Turquie, grande gagnante des années Erdogan jusque-là, n'arrive plus aujourd'hui à garder la tête en dehors de l'eau. Recep Tayyip Erdogan avait attendu la présidentielle et sa réélection en mai dernier pour tardivement lutter contre l'inflation en autorisant une remontée brutale du taux directeur de la Banque centrale, un taux passé de 8 à 15% en juin dernier et jusqu'à 50% aujourd'hui. Mais la flambée des prix est telle qu'il faudra du temps pour éteindre l'incendie. L'agence de notation Fitch estime que l'inflation ne devrait pas redescendre en dessous de 58% en 2024. En conservant Istanbul, l'opposition garde aussi le contrôle de la capitale économique du pays. La ville pèse à elle seule pour un tiers du PIB turc. Ce sera son laboratoire pour montrer quelle politique économique elle entend mener si elle devait un jour prendre la tête du pays.
Nathanaël Vitran, du service économie de RFI. Responsables israéliens et américains s'entretiennent aujourd'hui. Une rencontre virtuelle pour discuter de la grande offensive prévue à Rafah, dans le sud de Gaza, cette ville où sont entassés 1,5 million de Palestiniens déplacés par la guerre. Par ailleurs, l'armée israélienne a quitté l'hôpital Al-Shifa après 2 semaines d'opération dans ce qui était le plus grand hôpital du territoire palestinien, officiellement pour y traquer des combattants du Hamas. Les bâtiments sont détruits et de nombreux cadavres y ont été retrouvés.
8h04 à Lima, où la présidente péruvienne se retrouve dans la tourmente.
Oui, Dina Boluarte est sommée par la justice de présenter vendredi prochain toute une série de montres Rolex qui seraient en sa possession. Christophe Paget, bonjour.
Bonjour.
La présidente arrivée au pouvoir après l'emprisonnement de son prédécesseur Pedro Castillo est accusée d'enrichissement illicite.
Oui, tout commence il y a 2 semaines quand un site d'information péruvien publie une série de photos de Dina Boluarte arborant différentes montres de luxe entre 2021 et 2022 alors qu'elle était au gouvernement. Le parquet général ouvre alors une enquête préliminaire pour suspicion d'enrichissement illégal, mais Dina Boluarte, qui affirme avoir les mains propres et une seule montre, ne se rend pas aux convocations de la justice. Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, 2 perquisitions sont menées à son domicile, où sa porte est enfoncée, et au palais présidentiel. La preuve d'achat d'une Rolex est trouvée, mais pas de montre de luxe, affirme le ministère public. Dina Boluarte dénonce une perquisition arbitraire, disproportionnée et abusive, preuve, affirme-t-elle, d'un harcèlement systématique à son égard. Début mars, la présidente avait déjà dû se séparer de son premier ministre, visé par une enquête pour trafic d'influence. Elle-même fait aussi l'objet d'une plainte après la répression de manifestants demandant son départ en décembre 2022, répression qui a fait plus de 50 morts. Hier, le ministère public a de nouveau convoqué la présidente pour présenter son témoignage et les montres, vendredi prochain. Réponse de la présidente, je veux témoigner immédiatement pour faire face aux turbulences politiques actuelles, mais pas un mot sur les montres demandées.
Merci beaucoup Christophe Paget. Nous l'avons appris il y a quelques minutes, dans l'est de l'Ukraine, les autorités locales annoncent la mort d'un responsable de l'occupation russe, Valery Tchaïka, tué dans l'explosion d'une voiture piégée. En Russie, la justice prolonge la détention d'une journaliste russo-américaine, Alsou Koumarcheva. Elle doit rester derrière les barreaux jusqu'au 5 juin prochain. Cette reporter pour Radio Free Europe réside normalement à Prague. Elle a été arrêtée l'année dernière en Russie alors qu'elle rendait visite à sa mère malade, accusée de ne pas s'être enregistrée comme agent de l'étranger, accusée également de diffuser des fausses informations. Elle risque 15 ans de prison.
La taxe carbone augmente au Canada, Diane. Elle passe aujourd'hui de 65 à 80 dollars canadiens par tonne.
C'est-à-dire de 45 à 55 euros environ. Le dispositif a été mis en place en 2019 afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays. Mais il est de plus en plus la cible du Parti conservateur. Depuis plusieurs mois, son chef promet de l'abolir s'il arrive au pouvoir, Pascal Guéricola.
Jour après jour, Pierre-Paul Lièvre, le chef conservateur, martèle le même message sur toutes les tribunes. La taxe carbone est responsable de l'inflation au Canada et il faut la supprimer. Pourtant, un grand nombre d'économistes soutiennent le contraire. Cette taxation, appliquée dans les entreprises et à la pompe à essence, n'a que peu d'effets inflationnistes. Et elle est très efficace, comme l'illustre Maya Papineau-Coritard, professeure d'économie.
Ça fait depuis les années 70 que les théories existent pour prouver que c'est l'approche la plus économique, en fait, pour atteindre nos cibles de réduction de CO2.
En plus, le gouvernement rembourse une partie de cette taxe aux consommateurs, ce que ces derniers ignorent, comme l'a montré un récent sondage. Geneviève Tellier, professeure de sciences politiques.
Le gouvernement actuel a énormément de difficultés à expliquer lui-même sa propre taxe. Alors, il y a un problème de communication aussi de la part du gouvernement qui a mal expliqué sa taxe puis qui a mal expliqué les mesures qu'il a mis en place pour atténuer les effets de la taxe.
Tout cela laisse le champ libre à ses adversaires conservateurs. Ils ne cessent d'attaquer le Premier ministre sur son incapacité à lutter contre l'inflation avec un message très populiste qui rapporte gros dans les sondages. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Et les prochaines législatives au Canada doivent avoir lieu au plus tard à l'automne 2025. Enfin, un événement dans le monde des sports mécaniques. Le groupe américain Liberty Media annonce racheter les droits du championnat du monde de MotoGP. Une opération à plus de 4 milliards d'euros qui doit encore être soumise à l'approbation des autorités de régulation. Liberty Media est propriétaire de la Formule 1 depuis 2017. Si ce rachat est validé, cela ferait du groupe le géant incontesté du domaine.
Merci Diane Berger. Vous restez avec nous, on continue à parler de l'actualité du continent jusqu'à 13h30, temps universel.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Après des jours de discussion, de confusion, le Conseil présidentiel de transition doit officiellement entrer en fonction aujourd'hui en Haïti. Mais quelques incertitudes planent toujours. Le média haïtien Radio-Télé Métronome croit savoir que les alliés du Premier ministre démissionnaire ne veulent pas de ce conseil, qu'ils espèrent encore obtenir que le président de la Cour de cassation prenne le relais. Et toujours selon Radio-Télé Métronome, les tensions sont aussi très fortes entre le conseil de transition et le gouvernement sortant. Pendant ce temps, les violences rythment toujours le quotidien dans la capitale haïtienne et dans ses environs, avec notamment l'incendie d'un site industriel à Croix-des-Bouquets ce week-end, c'est-à-dire dans le Nouvel East, Achim Lipold. Et puis la presse rappelle aussi à quel point les violences des gangs ont fait s'effondrer le système de santé.
Oui, c'est un reportage à lire aujourd'hui dans le Miami Herald. Avant même qu'une alliance destructrice de gangs armés ne commence à brûler les hôpitaux, les centres de soins et les pharmacies d'Haïti, le secteur de la santé du pays se trouvait dans une situation critique, écrit le journal, avec des médecins, des infirmières et d'autres membres du personnel médical enlevés et tués. Aujourd'hui, confrontés à une situation de violences extrêmes, les médecins et les infirmières tentent de quitter le pays. Nombreux sont ceux qui partent aux États-Unis dans le cadre du programme humanitaire mis en place par l'administration Biden. Environ 30 institutions médicales ont dû fermer leurs portes dans la capitale Port-au-Prince, selon le Miami Herald. C'est très frustrant, explique un jeune médecin interviewé par le journal. Si un centre de soins est ouvert, les patients très souvent ne peuvent pas s'y rendre à cause des tirs ou des rues bloquées et les blessés par balles ne peuvent pas être soignés. Ces centres manquent de médicaments et de réserves de sang, explique le médecin. Leur système de santé en Haïti est devenu un patient en soins intensifs, conclut le Miami Herald.
Achim Lippold, vous restez avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes. On va continuer à parler d'Haïti, de cette situation qui inquiète aussi les Haïtiens de l'étranger, et notamment la diaspora du Canada, Marine Lebeg.
Oui, au Canada, la diaspora haïtienne, c'est plus de 165 000 personnes qui suivent à distance et avec inquiétude les événements tragiques en Haïti.
Mon corps est physiquement au Canada, ma conscience est haïtienne.
Karine Cohen-Sanchez, elle est doctorante en sciences sociales et elle est née à Montréal de parents haïtiens. Ils sont arrivés au Canada dans les années 70, mais ses proches sont restés à Port-au-Prince.
Ça ne va jamais changer juste parce que physiquement je suis ici au Canada, que je peux me détacher émotionnellement, psychologiquement de le trouble qui se passe dans mon pays d'origine. J'ai toujours mes cousines, j'ai des membres de ma famille qui sont toujours en Haïti.
Karine Cohen-Sanchez, d'ailleurs signataire d'une tribune parue il y a quelques jours dans la presse canadienne.
Oui, c'était dans Le Devoir, le principal quotidien francophone du Canada. Une tribune co-signée par une quinzaine de personnes, toutes issues de la diaspora haïtienne. Elle dénonce le manque d'implication du Canada dans la recherche de solutions à la crise en Haïti. Car si le pays a été le premier à prendre des sanctions contre les acteurs économiques de la crise, le Canada a ensuite refusé de s'impliquer davantage et a décliné l'offre de diriger la mission multinationale de soutien à la police haïtienne. C'est finalement le Kenya qui en a pris la tête. Karine Cohen-Sanchez.
Ce n'est pas la première lettre ouverte qui était faite par des Haïtiens. Ça ne va pas être la dernière. On a fait des protestes, on fait des lettres ouvertes, on fait des appels au gouvernement régulièrement. J'attends une reconnaissance et des actions. Il y a deux étapes. Ils doivent identifier leurs responsabilités, ils doivent reconnaître leurs responsabilités et prendre des actions.
Des actions dans quel domaine, Marine ?
Eh bien, plusieurs points sont abordés, à commencer par le trafic d'armes. Les signataires appellent le gouvernement canadien à clarifier sa position. Le Canada fait-il partie des pays qui envoient des armes en Haïti ? Selon un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime datant de 2023, Haïti ne fabrique officiellement aucune arme à feu. La quasi-totalité est donc importée, légalement ou non. Et si la majorité provient des États-Unis, pointe le rapport, les signataires de la tribune demandent au Canada de se positionner contre ce trafic.
Autre point évoqué, c'est celui de la santé mentale en Haïti.
Oui, Anne, la diaspora déplore un manque de moyens et de ressources des organisations dédiées au soutien psychologique des Haïtiens. Le gouvernement canadien doit être plus généreux, exige la tribune, pour permettre une meilleure prise en charge de ces personnes que l'immigration ou les déplacements forcés ont rendu vulnérables. Karine Cohen-Sanchez dénonce aussi les différences de traitement dans l'accueil des immigrés selon leur pays d'origine.
La procédure d'immigration est complètement différente dépendant de le pays que vous venez, de votre pays d'origine. Malgré qu'ils essayent de dire que c'est uniforme et c'est une approche standardisée, ceci est faux. J'ai toujours dit que les règlements d'immigration sont basés sur la couleur de peau. Le traitement que quelqu'un qui vient d'Haïti versus quelqu'un qui est venu de l'Ukraine était complètement différent. L'accueil n'est pas pareil. On a vu les photos de comment que les Haïtiens étaient traités quand ils ont essayé de traverser les États-Unis versus les Ukraines, comment ils étaient accueillis. Ceci s'applique globalement. Ce n'est pas seulement aux États-Unis, ceci s'applique aussi au Canada.
Avec les autres signataires, Karine Cohen-Sanchez demande au Canada une révision du processus de réunification familiale afin de faciliter d'abord le dépôt des demandes faites par les membres de la diaspora haïtienne pour faire venir leurs proches et de réduire d'autre part les délais d'attente. À la fin de l'année 2023, plus de 17 000 demandes d'asile provenant d'Haïtiens pour motif de persécution étaient encore en cours de traitement par les autorités canadiennes.
Merci Marine Lebeg.
Radio France Internationale. Las voces del mundo.
Au Brésil, le coup d'État de 1964 reste un sujet polémique et ça fait la une de la presse ce lundi à Achim Lippold.
Oui, l'interdiction des commémorations officielles par le président Lula, qui ne souhaite pas provoquer l'armée, a été en grande partie suivie par son gouvernement. Selon Carta Capital, seuls 7 des 38 membres de son cabinet ont osé communiquer sur le coup d'État et dans leurs messages postés sur les réseaux sociaux, aucune allusion au rôle de l'armée, dont d'ailleurs aucun responsable n'a été condamné pour son implication dans le putsch et la répression sanglante des opposants. Les déclarations se limitent à la défense de la démocratie et à la lutte contre toute tentative de faire retomber le pays dans un régime autoritaire.
Et plusieurs organisations de défense des droits humains dénoncent le silence imposé par Lula sur ce coup d'État.
Oui, exactement, c'est ce qu'écrit le journal O Estadão, le site d'information Intercept. Lui aussi critique vivement l'attitude du président brésilien, une attitude qui, selon le journal, en ligne renforce renforce le pacte d'amnistie, on va y arriver, qui a garanti l'impunité des militaires après la chute de la dictature. Une impunité qui se poursuit d'ailleurs aujourd'hui dans la police militaire, affirme Intercept, qui dénonce les violences perpétrées par les forces de l'ordre contre les civils, notamment des jeunes des favelas. Le 1er avril 1964, c'est tous les jours au Brésil, écrit le site d'information. Pour Carta Capital, en 6 décennies après le coup d'État, le Brésil n'est pas à l'abri de la menace d'un effondrement institutionnel. L'hebdomadaire relève que, selon la police fédérale, une conspiration au sein de l'ancien gouvernement de Jair Bolsonaro a été fomentée pour maintenir l'ex-président au pouvoir, une tentative de coup d'État qui impliquerait des militaires de haut rang et dont l'objet était d'inverser le résultat de l'élection de 2022 remportée par le président Lula.
Dans l'actualité également, l'Argentine et la Colombie qui tentent de surmonter la crise diplomatique provoquée par les insultes de Javier Milei à l'encontre de son homologue colombien. Les deux pays assurent que l'ambassadeur de Colombie en Argentine reprendra bien son poste. Il avait été rappelé après les propos du président argentin qualifiant Gustavo Petro, un président de gauche, de communiste meurtrier qui était en train de couler la Colombie. Et il ne s'est pas arrêté là, ce qui avait conduit Bogota à ordonner la semaine dernière l'expulsion de diplomates argentins. Et puis au Venezuela, un youtubeur célèbre a été arrêté, Oscar Valento. Spécialisé dans le tourisme, il est accusé de liens avec des activités terroristes. L'information est rapportée par ses proches. Les autorités, elles, n'ont fait aucun commentaire pour l'instant.
RFI. The World's Voices.
Notre dossier du jour aux États-Unis, consacré au centre de grossesse en détresse. C'est un outil des conservateurs pour lutter contre l'avortement. Il s'agit en fait de fausses cliniques qui font tout pour empêcher les femmes d'interrompre leur grossesse. Et elles sont nombreuses, 2500 sur tout le territoire américain. C'est 3 fois plus que le nombre de cliniques pratiquant des IVG. Un film raconte leur histoire et leur essor. Preconceived vient d'être présenté au festival South by Southwest et où il a reçu un prix spécial du jury. Thomas Arms.
Il y a souvent des pleurs quand je rencontre une femme pour la première fois. Je me dis, Seigneur, dites-moi quoi dire. C'est lui, c'est Dieu qui fait tout le travail, pas moi.
Brandy Swindle est la présidente de Stanton Healthcare, un groupe de centres de grossesse en détresse dans l'Idaho. Un lieu où les personnes enceintes qui cherchent un avortement croient être en face d'un personnel médical. Les femmes qui y travaillent portent un stéthoscope, des blouses de médecin, alors qu'elles n'ont aucune formation médicale. Et ces centres possèdent tous un appareil pour faire des échographies, un service qu'ils offrent gratuitement. Malia, dont l'histoire est relatée dans le documentaire Preconceived, voulait obtenir une pilule abortive et elle tombe sur un de ces centres.
Quand je suis entrée, j'ai vu toutes ces croix sur les murs. Ça me semblait bizarre d'avoir ne serait-ce qu'une image religieuse dans ce que je pensais être un centre médical. Ils m'ont demandé de remplir des papiers, demandant beaucoup d'informations très intimes. Et puis ils me disaient qu'un avortement peut causer un cancer du sein, mais aussi la stérilité. Cela a commencé à me troubler.
Il n'est pas rare d'entendre ce récit. Il y a celles qui sont à 6 semaines de grossesse et à qui le personnel des centres dit qu'elles sont à 9 ou 10 semaines et qu'elles ne peuvent plus prendre la pilule abortive. Ou d'autres à qui l'on fait faire des échographies à répétition le temps qu'elles prennent leur décision en conscience jusqu'à ce qu'en fait le terme pour un avortement soit dépassé. Tara Murta fait partie du Women's Law Project qui protège les droits reproductifs.
On a eu un médecin en résidence. Il me disait par exemple qu'une femme a eu un accident de voiture mineur. Elle se fait examiner pour voir si tout va bien. Elle est à 7 mois et lui dit « Vous allez voir dans mon dossier médical que je suis enceinte ». Mais il n'y avait rien dans son dossier, rien n'indiquait qu'elle était enceinte. En fait, elle est allée plusieurs fois dans un CPC, un centre de grossesse en détresse, pour des échographies, et elle pensait qu'elle était suivie médicalement pour sa grossesse.
Et ces centres liés au mouvement anti-IVG américain se sont multipliés depuis 30 ans.
Dans les années 90, ils assassinaient des médecins et il y a eu une série d'attentats à la bombe contre des centres d'IVG. Leurs propres études montrent que les gens à l'époque pensaient qu'ils étaient des fanatiques, des terroristes et des amoureux des fœtus. Ils se sont dit qu'ils allaient changer de marketing. Donc plutôt que de se focaliser sur les fœtus en public, ils ont prétendu que les avortements endommagent et nuisent aux femmes. Comme ça, les Américains lambda peuvent les soutenir en pensant protéger leurs proches.
Car la stratégie de ces centres s'est affinée. Jennifer McKenna étudie les mouvements anti-avortement et le développement des centres de grossesse en détresse.
La tromperie, la désinformation et jouer la montre sont des tactiques essentielles de l'industrie de ces centres CPC. Ils s'installent à côté de cliniques abortives, ils copient leurs pancartes, ils interceptent des patientes qui s'y rendent. Venez chez nous, nos services sont gratuits. Ils ont fait évoluer leurs manœuvres malhonnêtes avec l'âge numérique. Maintenant, ils propagent de fausses informations sur leur site internet à propos de l'avortement et de la contraception, en ciblant des femmes pauvres, jeunes, non assurées, qui ont une grossesse non voulue et qui pouvaient être vulnérables.
Depuis 2010, 500 millions de dollars ont été donnés par 13 États américains pour financer ces centres de grossesse en détresse. Une industrie en pleine expansion. Sabrine Keane est l'une des deux réalisatrices du documentaire Preconceived.
Heartbeat International, qui est dans notre film une organisation, sur le site, il y a des centres même en France. Et donc, quand on était en entretien avec eux, ils nous ont dit qu'ils voulaient vraiment être plus international que même maintenant et que c'était un petit peu leur focus pour le futur.
D'ailleurs, dans de très nombreux pays, si vous cherchez sur Internet « clinique abortive à côté de chez moi », vous tomberez en premier sur ces fausses cliniques. Et dans certains pays, les vraies cliniques n'apparaissent qu'à la troisième page de recherche. Thomas Harms, Houston, RFI.
Et on reste aux États-Unis où Donald Trump, le candidat républicain à la présidence, est en train de ruiner son parti.
Oui, c'est en tout cas l'avis du New York Times qui met en garde le parti républicain contre les tentatives d'arnaque, comme il écrit, de son candidat. Le journal rappelle que Donald Trump n'a pour l'instant payé aucun de ses importants frais de justice de sa propre poche. Il s'appuie sur les contributions de ses sympathisants pour régler ses frais d'avocat et les amendes décidées par les tribunaux. Le problème, écrit le New York Times, c'est que cet argent manque cruellement pour la campagne républicaine. Déjà, Donald Trump est loin, loin derrière son rival Joe Biden en ce qui concerne la récolte des fonds, mais les conservateurs ont décidé de se ranger derrière un homme qui n'a aucune loyauté envers le parti et qui ne pense qu'à l'instrumentaliser à ses propres fins, écrit le New York Times.
Un candidat qui, en plus, n'est pas apte à diriger le pays, selon plusieurs témoignages d'anciens collaborateurs.
Oui, le Philadelphia Inquirer a réuni des dizaines de témoignages de celles et de ceux qui ont travaillé avec Donald Trump à la Maison-Blanche, que ce soit l'ancien vice-président Mike Pence ou son ex-chef de cabinet John Kelly et d'autres. Eh bien, ils sont unanimes pour dire que Donald Trump représente un danger pour la démocratie. Le journal félicite ses responsables républicains qui pensent d'abord à leur pays avant de penser à leur parti.
Donald Trump qui multiplie les contre-vérités et les fausses informations, surtout en période de campagne électorale. C'est quand même lui qui avait fait émerger le concept de vérité alternative. Eh bien, il sera sans doute de plus en plus difficile pour les journalistes de faire le tri sur les réseaux sociaux, pour tout le monde d'ailleurs, pas seulement pour les journalistes, parce que Meta, la maison mère de Facebook, va supprimer un logiciel très utilisé pour suivre la désinformation sur Facebook ou sur Instagram. À partir du mois d'août, ce logiciel CrowdTangle ne sera plus disponible, Myriam Berber. Il sera remplacé par un nouvel outil uniquement accessible pour les organismes à but non lucratif.
Pour certains, il s'agit d'une grave régression, voire d'une menace pour l'intégrité des élections. Pendant des années, CrowdTangle a permis à ses utilisateurs de repérer et d'analyser la désinformation sur les réseaux sociaux. Ces services, qui sont utilisés par des grands médias comme la BBC, ont ainsi permis de traquer des théories du complot ou bien encore de repérer des campagnes de manipulation pilotées depuis l'étranger. Lors du scrutin présidentiel de 2020, c'est grâce à ce logiciel que les responsables électoraux américains ont pu identifier des vidéos virales évoquant sans aucun fondement des vols de bulletins par correspondance. Mais depuis plusieurs mois, CrowdTangle est dans le collimateur de la direction de Meta qui estime que le logiciel est un véritable mouchard sur les activités du groupe. De nombreux journalistes l'ont utilisé pour recueillir des informations peu flatteuses, comme notamment la présence de nombreux jeux piratés sur son application de jeux vidéo.
Toujours aux États-Unis, à New York, il faudra bientôt payer 15 dollars pour accéder au centre de Manhattan. La ville vient d'approuver un péage urbain pour les véhicules qui souhaitent se rendre dans cette partie de l'île. La mesure, Lubna Anaki, est censée lutter contre la pollution et contre les embouteillages.
En ce long week-end pascal, les rues de New York sont calmes et moins fréquentées, bien loin du chaos et des embouteillages permanents habituels. Une vision rare dont les responsables de la ville veulent faire une réalité quotidienne grâce aux nouveaux nouveaux péages urbains, ils espèrent diminuer le nombre de véhicules de 20%, un projet soutenu par l'organisation Transportation Alternative, dont fait partie Alexa Sledge.
New York est la ville la plus embouteillée du pays. Avec toutes ces voitures sur nos routes, l'air est hautement pollué. Les ambulances qui essaient d'aller à l'hôpital se retrouvent bloquées dans les embouteillages, les bus et les gens dedans aussi.
Mais devoir payer $15 pour passer en dessous de la 60e rue n'est pas du goût de tous, surtout ceux qui travaillent dans la zone concernée.
Imaginez devoir payer $15 pour aller au travail sans que votre entreprise ne vous rembourse, ça n'a aucun sens. Je vais devoir limiter d'autres dépenses pour couvrir celle-ci.
Je suis vraiment furieux. Aller à Manhattan avec les péages qui sont déjà sur les ponts, cela va coûter $30. Et on va payer pour le parking, ça va faire cher au final. C'est n'importe quoi.
Pour le moment, la mise en service de ce nouveau péage est prévue le 15 juin, mais la date pourrait être repoussée en raison de procédures lancées devant la justice par des opposants au projet. Loubna Anaki, New York, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de La Première. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Anne.
Un magistrat exfiltré de Guyane après des menaces d'une organisation criminelle brésilienne.
L'information a été révélée le 23 mars dernier par France-Guyane. Elle a été confirmée depuis. C'est ce que nous explique maintenant notre confrère de La Première Guyane, Laurent Marot.
Selon nos informations, ces menaces remontent à un mois. Elles ont entraîné le départ de ce magistrat chargé de la lutte contre la criminalité organisée, sans date de retour pour le moment. En toile de fond, la stratégie d'implantation en Guyane de factions criminelles brésiliennes, avec des milliers de membres au Brésil, qui prospèrent dans les trafics de drogue et d'armes avec une grande violence. Ainsi, quand il a été arrêté en 2021 à Rio, l'un des chefs présumés de la Familia Terror do Amapá, ou FTA, était soupçonné d'être impliqué dans plus d'une centaine de meurtres au Brésil. La FTA est l'une des factions qui tente de prendre pied en Guyane. En février 2023, l'un de ses cadres présumés a été arrêté sur l'île de Cayenne. Depuis fin 2022, près d'une dizaine de gendarmes sont venus en renfort de l'Hexagone pour enquêter sur ces organisations criminelles et le parquet a été renforcé. Mais est-ce suffisant pour éviter l'implantation durable en Guyane de ces factions qui sème la terreur au Brésil?
On reste en Guyane avec un sujet moins dramatique, le tourisme. Alors il y a les touristes venus de l'extérieur, là ça va bien, hausse de la fréquentation, grande satisfaction des visiteurs. Le tourisme endogène, en revanche, peine à se développer dans le département. En cause, le transport difficile vers les communes de l'intérieur et le manque de routes. Jean-Luc Leveste est le président du comité du tourisme de la Guyane.
Alors aujourd'hui, très clairement, nous sommes en panne. Hein. C'est peut-être le point noir de cette enquête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup perdu de trafic aérien en termes, je dirais, de fréquentation touristique, que ce soit de la clientèle locale que de la clientèle qui vient, bien sûr, de l'extérieur. Donc aujourd'hui, c'est un peu en panne. C'est pour ça que nous, comité du tourisme, on veut bien développer l'intérieur de la Guyane, mais il nous faut des outils, et des outils importants qui sont l'aérien, qui sont des routes, qui sont effectivement des possibilités aussi sur le fleuve, hein, sur la navigabilité. Donc aujourd'hui, on a besoin de ce genre d'opérateur pour développer l'intérieur. Il y a véritablement un travail à faire. Alors avec mes collègues de la collectivité, on y réfléchit. Donc il est très clair qu'on cherche des solutions parce qu'on ne peut pas développer le territoire, on ne peut pas développer, je dirais, le tourisme endogène si on n'a pas effectivement des moyens de transport qui permettent.
Le président du comité du tourisme de la Guyane était au micro de Jennifer Baratini. Bon après-midi Anne, à demain.
Merci Benoît Ferrand et merci à tous d'avoir été avec nous. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. À la réalisation, Vincent Bito, vous le savez, vous pouvez retrouver toutes nos informations quand vous le voulez sur l'application RFI Pure Radio. Et surtout, vous ne bougez pas, dans une minute maintenant, de vive voix, Chantal Leroux reçoit la chanteuse, auteure, compositeur Inouk, Elie Sapi. Merci à tous, bonne journée.
RFI, la sélection du mois.
Agachou.
Endormienne me réveille encore.
Gazo et Tiakola.
Elle veut qu'un baby éclore. Comment chanter?
et sa poussie sont Ouata.
RFI Musique. Le prix théâtre RFI.
Je suis Eric Delphin Kogui, auteur de théâtre camerounais, prix RFI Théâtre 2023.
Si comme Eric Delphin Kogui, vous aimez le théâtre et vous avez moins de 46 ans, vivez en Afrique, aux Caraïbes ou au Proche-Orient, envoyez vos textes avant le samedi 27 minuit à l'adresse suivante, prix.théâtre@rfi.fr.
Chers auteurs et chères autrices, je vous invite tous massivement à postuler pour le prix RFI 2024. C'est maintenant.